Bonjour à tous et bonjour à toutes. On va parler aujourd'hui du documentaire qui sera diffusé ce soir à partir de 21h10 sur France 3. Ça s'appelle « La France de l'épuration entre vengeance et justice ». Notre invité est un des réalisateurs de ce documentaire. Bonjour Laurent Joly.
Bonjour Monsieur Choucroune.
Merci d'être avec nous ce matin. Un documentaire comme ça, il est long à mettre en place, en image.
Ah oui, ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps, ça prend plus d'une année pleine. D'abord, il faut écrire un scénario. Il faut trouver des témoins. Ça a été très difficile de trouver des témoins. Des gens qui étaient assez âgés, parfois pour être adultes à l'époque. Vous voyez, c'est des gens qui sont aujourd'hui centenaires, quasi centenaires, trouver des enfants d'eux. Et puis, il y a des histoires que les gens n'ont pas encore envie de raconter. Donc, c'était pas évident aussi de convaincre. Mais au bout du compte, on a une vingtaine de témoins qui ont directement vécu les événements ou qui sont des enfants de personnes qui ont vécu le drame de l'épuration.
Alors, avant de parler de l'épuration, on va venir historiquement, cette épuration a lieu en 1944, 4 ans après la fin, après l'occupation. Comment on s'arrête sur ce sujet-là, sujet qu'on traite dans d'autres documentaires en 2-3 minutes? C'est important de s'y arrêter plus longuement.
Oui, parce que ça a été un phénomène en profondeur, l'épuration. L'épuration, ça a commencé pendant la guerre. Il faut bien comprendre que quand vous avez une occupation aussi terrible que celle qui a été l'occupation allemande, et avec, c'est vraiment l'une des singularités françaises en Europe, vous avez une collaboration d'États qui s'est étendue sur l'ensemble des deux zones. Il y avait la zone occupée, il y avait la zone libre. Il y avait des territoires qui avaient été annexés, comme l'Alsace-Moselle. Ça a suscité de véritables passions, et les gens étaient beaucoup de gens étaient, comme on dirait aujourd'hui, à cran, à bloc. Ouais. Une volonté de vengeance très forte. Donc la volonté de châtier les traîtres, ceux qui avaient conduit leurs compatriotes parfois à être déportés. Il y a des dizaines et des dizaines de milliers de gens qui ont été déportés. 74 000 juifs, plus de 75 000, autour de 75 000 déportés résistants ou otages. Donc tout ça, ça a suscité une véritable colère dans la population, une colère profonde et qui va exploser véritablement à l'été 1944. Il y a vraiment un moment, été 1944, puisque la moitié des morts liées à l'épuration a lieu en quelques semaines à l'été 1944.
Est-ce que cette épuration était légitime ?
Elle était, en tout cas, en grande partie légale, légale qu'on pourrait le croire. On a souvent mis en avant cette notion d'épuration sauvage, mais ça aurait été que des règlements de compte. En fait, on se rend compte que dans cette explosion de l'été 1944, c'est des travaux récents, notamment d'un historien qui s'appelle Fabien Lostek, il a bien montré que ce qu'on met derrière épuration sauvage, à tort, c'est souvent une épuration en grande partie légale, mais dans un contexte très particulier, qui est celui où la guerre continue, où les armes continuent il y a des combats encore entre les Français et les Allemands, et à l'arrière, on fait des procès. C'est des procès effectivement à la va-vite, mais parce que on est dans le cadre de la guerre, c'est le droit militaire qui s'applique, et des Français, des miliciens qu'on va trouver en armes, c'est vrai qu'on fait des procès expéditifs. Donc on a gardé cette image d'une épuration sauvage, alors que la plupart du temps, c'était des procès qui respectaient quand même malgré tout certaines règles, même si les sanctions étaient terribles, puisqu'on fusillait
alors,
des gens.
Laurent Joly, on parle aussi de ce reportage, notamment dans le dossier de presse, de épuration ratée. Est-ce que vous confirmez ou pas du tout, c'était une épuration faite dans les règles, comme vous le dites?
Alors, épuration ratée, c'est vraiment ce qu'ont ressenti les Français et les Françaises à l'époque. C'est le ressenti majoritaire. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez ceux qui considéraient qu'il fallait épurer plus et qu'on n'épurait pas assez, qu'il y avait trop de gens qui passaient entre les gouttes. Il faut se rappeler qu'à l'époque, le Parti communiste en 1945, c'est le premier parti de France. C'est le parti qui est en tête des élections générales. Ça continue en 1946. Donc c'est un parti qui a une énorme légitimité liée à son action dans la résistance. Et c'est lui qui donne en grande partie le là de l'épuration. Donc eux considèrent que on fait pas assez. Et il y a toute une autre catégorie qui considère qu'on a trop épuré, qu'il y a eu des lampistes, on a pris les moins responsables, les grands responsables n'étaient pas là. Alors ce ressenti, il est lié à plein de choses. Il est lié d'abord que entre l'été 44 et mai 1945, c'est-à-dire vraiment la fin de la guerre, vous avez près d'un an qui se passe. Et pendant cette année, effectivement, les grands collabos, ils sont pas là. Ils ont fui en Allemagne. Le maréchal Pétain, il a été exilé en Allemagne. Pierre Laval, il est parti. Les gens de la milice, ils sont pas là. Il y a 15 000 collabos et leurs familles qui sont partis en 1944. Donc les plus compromis n'étaient pas là. Donc vous voyez, il y a plein de facteurs qui permettent d'expliquer pourquoi on a eu le sentiment d'une épuration qui était ratée, qui ne se faisait pas, qui se faisait
trop lentement. Parce qu'on n'a pas reçu parce qu'on n'a pas pu épurer avec les grands responsables.
Voilà, au début, si vous voulez, on s'en est pris beaucoup aux femmes.
D'ailleurs, ce qui est intéressant dans le documentaire, c'est que vous le montrez, des fois, c'est des gens qui sont jaloux, alors ils accusent, c'est un peu, on accuse tout et tout le monde. Est-ce que c'est pas ça, l'épuration ratée ?
Il y a ça aussi, le fait qu'il y a eu effectivement des règlements de compte. Sous couvert de la résistance. Mais malgré tout, quand on regarde de près ce qui s'est passé, on se rend compte que c'est des cas exceptionnels, mais spectaculaires. Évidemment, quand il y a une rumeur qui s'abat, c'est l'un des fils rouges du film, et qu'on va accuser deux jeunes femmes parce qu'elles ont eu effectivement des relations avec les Allemands, mais on va imaginer qu'elles auraient été des grandes traîtresses, qu'elles auraient donné le maquis et on va se défouler sur elles, elles vont être violées, torturées, assassinées. Bon, c'est des cas spectaculaires qui ont vraiment existé. Il n'y a pas aujourd'hui, on peut vraiment le reconnaître, mais c'est pas la majorité. Ce qu'on observe quand même, c'est que la majorité des règlements de compte, ils visent des vrais collabos. Alors, c'est des petits collabos, c'est des gens qui ont adhéré à des partis, c'est des gens qui n'étaient pas appréciés parce qu'ils étaient militants, zélés, ou même, il y a des délateurs, on veut retrouver des délateurs, donc vous avez des délateurs qui sont fusillés. Il y a beaucoup d'exécutions sommaires qui visent vraiment des collaborateurs, mais dans des conditions, c'est pas des conditions normales, qui sont des conditions où l'Allemand parfois est encore là, la guerre continue, et les gens sont pris dans une sorte de frénésie. Vous voyez, c'est des choses qu'on observe aujourd'hui encore. Quand vous regardez ce qui se passe en Syrie, on voit qu'il y a la minorité à la 8 suscite une sorte de haine parce qu'ils ont été liés au pouvoir. Et les gens, voilà, c'est difficile d'empêcher des règlements de compte sanglants quand vous avez eu comme ça avant des répressions féroces et des complices qu'on veut abattre. Vous voyez, c'est
On va revenir sur les principaux responsables de ce qui s'est passé entre 41 et 44 ou 45 en France. On parle, vous l'avez dit, du maréchal Pétain, on parle de Pierre Laval. Mis à part Pierre Laval, on peut dire que c'était un peu bizarre parce que certains Français ne voulaient pas voir cette épuration aller plus loin. Vous dites même qu'il y aurait eu des pressions politiques.
Alors, il y a la volonté de juger les grands responsables. Ça, il n'y a pas de doute. Mais c'est vrai que le général de Gaulle se serait volontiers passé d'un procès Pétain. Pétain, il avait 89 ans en 1945. Il aurait pu rester en Suisse. On aurait pu imaginer, voilà, qu'on le juge par contumace. Ça aurait peut-être été plus commode. Et parce que Pétain garde une certaine popularité dans la population française, même si ça bouge avec le retour des déportés. Le retour des déportés au printemps 45, ça change des choses. On se dit, tiens, quand même, ça a été ça, la politique de Vichy aussi. Donc, il y a quand même une attente de la population très forte par rapport au procès Pétain. Et cette attente va être un peu déçue parce que le procès Pétain, qui est vraiment le grand procès de Vichy, il va assez peu évoquer les crimes de Vichy. Il va assez peu évoquer la milice, il va assez peu évoquer la déportation. Et ce que je montre, et je l'ai notamment montré dans un livre récent que j'ai fait, Le savoir des victimes, je montre dans mon livre et dans ce film que les vraies victimes, notamment les juifs, n'ont pas pu témoigner au procès de Pétain. Il y en a qui ont voulu le faire.
Pourquoi ?
Il y en a qui ont voulu témoigner de leur souffrance. Et ça n'intéressait pas tellement l'accusation, qui restait sur des choses assez abstraites. Est-ce que Pétain aurait fait un complot contre la République ? Est-ce que l'armistice était déjà un crime qui annonçait la collaboration ? Bon, tout ça, ça passait un peu au-dessus de la tête des Français qui voulaient qu'on parle vraiment des crimes de Vichy. Les crimes de Vichy, c'était la milice, c'était la déportation, c'était les délations.
Alors, vous avez parlé des Juifs, évidemment. Alors, dans le documentaire, vous en parlez, vous dites finalement qu'on n'a pas voulu les entendre. Votre avis, pourquoi ?
Alors, il y a vraiment, d'abord, ce qu'on note, c'est que il y a une certaine réticence à poursuivre les hauts responsables de l'administration. Parce que ce qui singularise quand même la persécution des Juifs sous l'occupation, et notamment la période des rafles, des déportations, c'est que c'est l'administration ordinaire qui a été mobilisée par Pierre Laval et par son chef de la police, René Bousquet, pour aller arrêter les Juifs. Et donc, ces agents ordinaires de l'État, on n'a pas trop envie de venir les embêter à la libération. Et quand on voit notamment que les juges qui ont appliqué la législation antisémite sous l'occupation sont les mêmes que ceux qui sont à gérer les affaires de cours de justice et de chambres civiques, on voit qu'il y a eu une certaine réticence. Mais on montre que le tableau est un peu plus nuancé et qu'il y a parfois eu des exceptions. Il y a des gens qui ont réussi à obtenir justice. On cite le cas notamment d'un responsable de la spoliation à Lyon qui a été condamné à 50 travaux forcés parce qu'on avait pu démontrer que ce monsieur était en plus un délateur, un vétéran.
Oui, mais certains comme Bousquet ou comme d'autres, même comme on va citer Mitterrand, eux aussi ont participé à cette occupation et ils sont sortis.
Tout à fait, Bousquet c'est peut-être le plus grand scandale de l'épuration parce que Bousquet, il est responsable de la déportation de 60 000 juifs. Il a montré un zèle incroyable à l'été 1942. Tout ça est documenté, c'est dans son dossier de...
Mais il est passé à travers les gouttes.
Et il n'y a pas une question sur le sujet pendant son procès. Pas un juré ne lui pose une question sur les juifs, la déportation des juifs, alors qu'il y a des documents qui sont montrés. Et il passe entre les gouttes, il est acquitté pour service rendu à la résistance. Parce qu'effectivement, en homme intelligent, Bousquet avait retourné sa veste en 1943 et avait aidé la résistance. Donc c'est un vrai scandale, et c'est ce qui permet d'expliquer pourquoi il y a eu ces nouvelles procédures dans les années 70, 80, 90, contre d'anciens préfets et technocrates de Vichy pour crimes contre l'humanité.
Alors, on est sur Radio Judaïque à Strasbourg, et donc il y a un sujet que dont vous parlez, c'est Oradour-sur-Glane. Il y a eu donc un massacre, et ça je l'ai appris en regardant votre documentaire. Il n'y a pas que des Allemands qui ont fait ces actions, il y a aussi des Français, des Français alsaciens. Pouvez-vous nous dire en deux mots de quoi il s'agit ?
C'était une affaire incroyable. Ça a été une affaire qui a totalement marqué l'opinion publique en 1953. On juge les responsables, ceux qu'on a retrouvés, ce massacre atroce d'Oradour-sur-Glane. Vous savez, tout un village a été rasé,
brûlé, morts, etc.
Des femmes, des enfants brûlés dans une église, mitraillés. C'est abominable. C'est sans doute la chose la pire qui a eu lieu en France sous l'occupation avec la rafle du Belleville. Donc, Oradour-sur-Glane, ce procès, il est très attendu par les familles de victimes. Et il va très mal se passer parce que, à l'époque, la droite est revenue au pouvoir. Il y a vraiment la volonté de fermer ce chapitre-là. Et on voit qu'il y a des Français qui sont sur le banc des accusés, des Alsaciens, qui sont des malgré nous. Alors évidemment, du côté des victimes qui soient malgré nous, ce sont eux qui ont tiré. Et donc le drame des malgré nous, on ne veut pas l'entendre. Et les Alsaciens, eux, ne voient que le drame des malgré nous. Ces pauvres petits Alsaciens de 17, 18 ans qui ont été requis de force, qui se sont retrouvés comme ça, mis dans des unités SS, c'est eux les victimes. Vous voyez, donc il y a eu une sorte d'incompréhension, Et ce qui fait que le verdict était relativement modéré. Les condamnations, il y a eu des condamnations, une dizaine de condamnations. Et malgré tout, ça a provoqué un scandale en Alsace. On voulait que tous ces Alsaciens soient acquittés. Quand même dingue. Et il y a eu même des manifestations. On a recouvert la place de la République d'un voile. Et ce qui fait que l'Assemblée nationale a décidé d'amnistier l'ensemble des Alsaciens. Et 80 ans après, à Oradour, 70 ans après, plutôt à Oradour-sur-Glane, on est toujours choqués de cette décision qui visait à pacifier les esprits.
Quel message ? Est-ce qu'il y a un message dans ce documentaire, ou c'est simplement de donner des informations aux gens qui vont regarder ce documentaire qui sera diffusé sur France 3 ce soir ?
Le message, c'est que je pense qu'on est arrivé à une période, et c'est vraiment la première fois depuis qu'on traite ce sujet de l'épuration. Je laisse les téléspectateurs découvrir un petit peu le fil rouge du film. Il y a un fil rouge dans ce film. Ce qu'on peut observer, c'est qu'aujourd'hui, on peut en parler de manière apaisée. Et il y a une forme de réconciliation sur ce sujet-là, l'épuration, qui a tellement divisé les Français. Mais 80 ans après, je crois que l'heure est venue sans doute de se réconcilier. La réconciliation, elle passe par dire la vérité. La vérité sur l'épuration telle qu'elle a été, et reconnaître qu'il y a eu effectivement des débordements, des excès, des crimes qui n'auraient pas dû avoir lieu.
Laurent Joly, vous le disiez en début d'interview, vous avez beaucoup travaillé sur la période dont on parle. Est-ce que vous avez appris quelque chose en travaillant sur ce documentaire ? Il y a des choses que vous avez découvertes ou vous étiez au courant de à peu près tout ?
Ah non, j'ai appris plein de choses, et notamment, j'écrivais en parallèle un livre, Le savoir des victimes, qui porte sur comment on a écrit l'histoire de Vichy et des Juifs de 45 à nos jours. Et c'est vrai que ce qui m'a le plus surpris, c'est la force du déni. C'est la force du déni par rapport à ce que les Juifs avaient vécu. C'est-à-dire que le génocide des Juifs, les chambres à gaz,
a été mis de côté.
En 1945, ça paraît incroyable. Et ceux qui veulent en parler suscitent presque des rires. On a un témoin, Boris Cyrulnik, qui le raconte. Donc ce climat-là de 1945, si on est vraiment pris la mesure en faisant ces deux travaux, je le savais, j'avais déjà lu des choses là-dessus, mais j'en ai vraiment pris la pleine mesure en menant ce travail.
Le titre du documentaire, La France de l'épuration entre vengeance et justice, c'est quoi l'épuration ? Plus de la vengeance ou plus de justice ?
Et ben voilà, on a été entre les deux, et c'est pour ça que je trouve que le titre est assez bien trouvé. C'est pas moi qui en ai eu l'idée, entre vengeance et justice, parce que c'est cette tension-là qui a été vraiment au cœur de l'épuration en 1944-45. C'est-à-dire que les gens voulaient se venger. Et on peut le comprendre. Quand vous avez subi 4 années d'oppression, vous avez vu des gens très mal se conduire, mais c'est pas ça un état de droit. Et donc, il faut mettre de la justice et des règles. Et en fait, c'est des choses qui nous parlent encore aujourd'hui. On est dans les mêmes logiques, dans les mêmes alternatives. Quel est le bon endroit pour la justice ? Qu'est-ce qui est juste ? Qu'est-ce qui est juste au bout du compte ? Et on se rend compte qu'il y a des peines. La justice ne pourra jamais les combler, les satisfaire. Il y aura toujours quelque chose qui restera. Voilà, et c'est cette tension-là.
Pour vous, Laurent Joly, c'est plus une vengeance, une justice. C'est quoi votre point de vue ?
Eh bien, mon point de vue, il est un peu normand. Il y a eu les deux. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu les deux. Il y a un moment de vengeance, très clairement, qui va durer 2-3 mois. Ça va de juin 44 à septembre 44. Vous avez vraiment là la vengeance est quand même centrale, parce que la guerre continue, parce que il y a des règlements de compte qui sont inévitables. Hélas, c'est comme ça, la nature humaine est ce qu'elle est. Et la justice va très rapidement essayer de mettre de l'ordre, même si ça va continuer à se croiser. On continue à tondre des femmes un an après la fin de la guerre. Il y a des exécutions sommaires encore un an après la fin de la guerre. Il y a des milices patriotiques de communistes qui sont pas tout à fait d'accord avec la Ligue et qui continuent à aller abattre des résistants dans des prisons parce qu'ils sont pas contents des décisions de justice. Donc tout ça, c'est pas une étape qui va en suivre une autre, mais un entremêlement permanent entre vengeance et justice. Et finalement, c'est l'état de droit qui a quand même triomphé. Ça, c'est quand même la conclusion que l'on donne, avec un chiffre c'est pas le chiffre apocalyptique qu'on a souvent lu. Au total, il y a 10 000 hommes et femmes qui sont morts des suites de l'épuration, soit par des règlements de compte, soit par des décisions de justice.
Le mot épuration, c'est le bon mot.
Ah, c'est vraiment le mot qui a été utilisé tout de suite. C'est le mot qui s'est imposé. C'est le mot qui a servi à qualifier le processus. Quand vous voyez les documents administratifs de l'époque, on voit le comité d'épuration de la préfecture de police de Paris, la commission d'épuration de la Sorbonne. Voilà, c'était vraiment le mot qui a servi à qualifier ce processus.
Mais c'est un bon mot.
Par tout le monde. Voilà.
C'est un mot juste.
Bah, c'est le mot, en tout cas, c'est le mot qui a été utilisé. C'est le mot. Alors après, on n'en a pas d'autres, puisque ouais. C'est le mot des acteurs, c'est le mot des historiens, et c'est le mot de la mémoire aussi. Quand on pense à l'épuration, on pense à cette période de la libération. Voilà, c'est l'un des mots de cette période. Il y a eu collaboration et il y a eu épuration. C'est vraiment les deux mots forts de la France dans la Seconde Guerre mondiale.
Laurent Joly, co-réalisateur du documentaire qui sera diffusé ce soir sur France 3, La France de l'épuration, entre vengeance et justice. Laurent Joly, vous avez des projets après ce film ?
Pas d'autres films à présent, mais je suis en train de travailler sur une histoire du régime de Vichy, un gros collectif, et donc ça donnera peut-être lieu à un documentaire, mais il y a surtout d'autres documentaires qui vont suivre, parce que vous savez que France Télé fait toute une séquence sur la Seconde Guerre mondiale, et je recommande vivement les trois documentaires qui vont être faits par Gabriel Le Gomin et Antoine Demeaux sur les procès Barbie, Papon et Touvier. Ça va être diffusé à partir du 8 avril sur France D'accord. Télé, et c'est vraiment extraordinaire.
Voilà. N'oubliez pas que vous pouvez regarder les reportages en streaming, comme on dit, ou sur la plateforme francetv.fr. Laurent Joly, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et on rappelle ce soir La France de l'épuration entre vengeance et justice à partir de 21h10 sur France 3. Laurent Joly, je vous remercie.
Merci beaucoup, monsieur.
Bonne journée. Au revoir.